la princesse Mathilde, Gustave Flaubert. Il ne faut pas attendre de ma part un jugement critique sur les œuvres des divers hommes de lettres que j'ai connus. D'abord, il ne faudrait pas en savoir plus long que j'en sais, puis la nature de mon esprit ne me porte pas au détail. Je suis toute d'impression, sans détour, peu préoccupé d'obtenir la vérité. Aussi puis-je inspirer quelque confiance par l'honnêteté et la franchise avec lesquelles je rends ce que j'éprouve. Messieurs les hommes de lettres, il faut le dire, ne montrons pas toujours dans le commerce des femmes, encore moins des princesses, ce qu'ils sont vis-à-vis de leurs confrères. De là, deux façons possibles d'apprécier leur talent. Ceux-ci connaissent mieux l'auteur, celles-là connaissent mieux l'homme. J'avais lu dans Madame Bovary, que j'avais relu, non par enthousiasme ou parti pris pour l'auteur, que je ne connaissais pas, mais par admiration pour une peinture si vraie, si sincère, si naïque, si vivante de la vie de province. J'avoue n'avoir rien compris au succès d'immoralité que l'on fit à cette œuvre. Certes, si quelque chose peut dégoûter du vice, c'est bien la conduite de Madame Bovary, et les conséquences de ses fautes ne sont pas faites pour encourager à le commettre. Quelques années plus tard, parut Salambo. Ce livre fut accueilli avec la faveur qui s'était attachée à Madame Bovary. Cette seconde œuvre de Flaubert fait grand honneur à son érudition, mais son mérite est moins appréciable pour les simples. Le sujet bizarre, la peinture exubérante, fantasque, n'attache guère, et je trouvais que dans cette seconde production, perçait déjà le défaut qui se trouve dans toutes les œuvres de l'auteur. Peu de naturel, beaucoup d'exaspération, un désir d'éblouir le public recherché ailleurs que là où il doit être, c'est-à-dire parmi les délicats, mais bien dans les masses. Salambo eut moins de succès que Madame Bovary dans le monde des lettrés, mais le gros public ne parle plus que de Salambo, ce qui fit de Flaubert un homme à la mode. L'impératrice désira le connaître. Je priais M. Camille Doucet de s'informer si je pouvais, sans m'exposer à un refus, lui adresser une invitation. Sur l'affirmative, je le priais de venir passer la soirée chez moi un certain jour que l'empereur et l'impératrice y devaient dîner. Flaubert vint de bonne heure. Je n'eus pas de peine à le reconnaître, aussitôt bien renseigné que j'étais sur son compte. Il me remercia vraiment pour l'honneur que je lui procurais. Flaubert était un homme de haute et large stature, à l'apparence robuste. Ses yeux bleus étaient grands et beaux, ombragés de longs cils. La moustache était forte, les cheveux un peu trop longs, bouclés légèrement. Il avait des traits réguliers, mais le teint malheureusement trop coloré. Les mains belles, la mise très soignée, sans élégance, l'abord facile, quoique un peu timide. Il avait l'air aimable et était désireux de plaire. Voilà pour le monde. Le Flaubert de l'intimité était le meilleur des hommes, curieux à étudier par les côtés outrés de son esprit. Sanguin, il se montrait bruyant, paradoxal dans la discussion, s'emportant pour rien, s'affairant de même, se livrant avec des exagérations venant beaucoup plus de sa volonté que de sa nature. Celle-ci fut toujours droite et simple, mais Flaubert enflait sa voix pour faire croire à sa force, à ses émotions, à ses convictions. De ces dernières, je ne lui en connaissais qu'une, son horreur pour le bourgeois. Jamais je n'ai pu lui faire définir nettement ce qu'il entendait par ce mot. Je suis convaincu que c'était tout ce qui lui déplaisait. Il n'avait pas ce qu'on appelle communément de l'esprit, non plus que de l'imagination. Il avait lu et lisait certainement, savait beaucoup, et se croyait le don du comique. En somme, il était le bourgeois même. Dieu, s'il m'entendait. Absolu et versatile, voulant mourir pour sa patrie et vivant fort bien avec tout le monde, vainqueur comme vaincu, il n'avait aucune conviction politique. Tantôt, il demandait toutes les répressions et tantôt, il n'en admettait aucune. Il était d'ailleurs sans fiel, sans fausse susceptibilité, facile à vivre, et ses modalités, toutes de langage, tenaient moins à son tempérament sanguin, au désir d'étonner. C'est ainsi qu'un soir à dîner, il nous tint ce propos. Je suis un sapeur de tout gouvernement, quel qu'il soit, je voudrais tout détruire. Certes, la proposition eût été inquiétante, tenue par tout autre que Flaubert, mais l'instant d'après, ce destructeur de toutes choses nous disait en charge une femme de M. Viennet, l'outarde, qui déclarait exquise. Assistant dans un atelier à une représentation d'une inconvenance révoltante, même pour le public exclusivement composé d'hommes, devant lequel on la donnait, il se tordait le rire et s'écriait au fond de l'action. Oh, c'est délicieux, c'est frais! Les trois quarts de l'année, il vivait à Croisset, près de Rouen. Sa petite maison, entourée d'un jardin, était située au bord de la Seine, séparée de la maison par une route en face même d'une embarcadère pour le bateau faisant le service de Rouen au Havre. L'accès en était donc facile. Néanmoins, il vivait là, presque seul. Sa nièce passait les hivers à Paris, il ne venait que pour 2 mois au plus. C'est dans sa maison de Croisset que je lui fus lui faire visite en 1878, l'année avant qu'il se fût cassé la jambe en traversant son jardin pour reconduire un ami par un temps du froid gelé. Il travaillait là, sans relâche, fumait sans cesse, mangeait beaucoup, se remettant immédiatement à l'ouvrage. Ce genre de vie était très mauvais. Naturellement paresseux pour prendre l'exercice, il ne réagissait pas contre ce penchant, et je crois que cette existence n'a pas peu contribué à hanter sa fin si subite. Lorsqu'il avait écrit quelque chose, il le lisait tout haut, ou plutôt il le déclamait. Plusieurs fois, il me fit la lecture de ses œuvres. Une partie de Salambo, la Tentation de Saint-Antoine, l'Éducation sentimentale, un cœur simple. Mais je redoutais de lui demander, tant il s'animait, devenait rouge et s'exprimait violemment. En général, il ôtait sa cravate pour, disait-il, gueuler plus à son maître. Il ne pouvait supporter le moindre bruit pendant sa lecture. Le frôlement d'une robe de soie, celui d'un crayon sur le papier, l'incommodait et lui faisait donner des signes d'impatience. C'était un nerveux. En toute chose, il posait au colosse, surenchérissant sur ce qu'on pouvait lui dire d'excessif, comme le Marseillais. Il n'avait rien du caractère qu'on attribue aux Normands. Il l'a bien montré par sa générosité, jusqu'à la ruine totale en faveur de sa nièce, dont le mari avait fait de mauvaises spéculations. Depuis la mort de Flaubert, on a écrit bien des choses sur lui. Rien n'est vrai absolument. Chacun l'a décrit avec les couleurs de son propre sentiment. La vérité, c'est qu'il était un homme simple, confiant, démonstratif, nullement envieux, et la maladie dont il souffrait a dû influencer, modifier son esprit, son moral, mais elle n'atterra jamais la droiture, la bonté, le charme de son cœur. Hélas, c'est en trace à ce portrait que j'apprends la mort de mon pauvre ami. Je ne pourrais plus voir le courage de continuer. Je ne pourrais plus avoir le courage de continuer. Ses défauts ont disparu. Je ne peux plus que le regretter si je m'aperçois du vide considérable laissé dans mon intimité par la disparition de cet ami que chaque automne ramenait un Saint-Gratien. Il me faut désormais, en pensant à lui, me contenter de mes souvenirs et renoncer à jouir du commerce de sœur de cet homme excellent, au cœur élevé, de cet ami fidèle, que l'adversité n'avait pas modifié et qui portait fièrement et sans effort de revers de fortune éprouvée, subie volontairement pour sauver la réputation d'un homme qui avait épousé la fille de sa sœur. nièce que Flaubert avait élevée et qu'il chérissait comme si elle était son propre enfant. Il lui abandonna toute sa modeste fortune au moment où il espérait toucher au port après avoir fait en vain les alliances et en sacrifice. Il espérait cependant recouvrir un peu sa sécurité matérielle et se proposa de venir à Paris pour être au moins isolé et jouir de ses amitiés. Pourquoi faut-il? Nous ayons tout perdu en un instant.